RCF.
Dans nos vies, il y a des choses irréparables. On ne peut pas revenir en arrière. Des actes, des paroles, des événements qui appartiennent au passé et qui sont indélébiles. Parfois, les traces laissées par l'irréparable empêchent de vivre, elles font obstacle à notre élan de vie, mais pas toujours de façon définitive, pas pour toujours. Elles peuvent être, non pas effacées, mais réparées. Isabelle Le Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Vivre avec l'irréparé ». Vous êtes religieuse auxiliatrice, vous êtes psychanalyste. Alors j'aimerais tout d'abord savoir comment ces activités, puisque vous avez aussi été aumônier de prison, ont, disons, nourri l'écriture de ce livre et puis la réflexion que vous proposez dans cet ouvrage.
Alors bien évidemment, toutes ces années d'écoute, quel que soit le lieu, la prison, les hôpitaux psychiatriques, mon cabinet évidemment, ont creusé en moi plus de questions que de réponses. Parce que chaque fois qu'on se confronte au mystère de l'humain, ce sont des questions qui surgissent. Voilà, sur Dieu, sur l'humain, l'homme, la femme, sa vie, son œuvre, etc. Bon. Et parmi les questions qui se sont creusées et qui se creusent encore en moi, il y a cette notion de guérison. Qu'est-ce que c'est que de guérir? Qu'est-ce que c'est quand on va voir un psy? Les gens disent, oh ben moi je vais aller mieux, ça y est, je vais guérir. On va voir un médecin, c'est pour guérir. Voilà, et le médecin... Et pourtant, les médecins que j'ai rencontrés ne me disent pas ça. Ils ne me disent pas qu'ils vont guérir. Ils me disent qu'ils vont soigner. Moi, ça m'a intéressé, là aussi, et je me dis, dans le fond, moi, je ne cherche pas à guérir. Il n'y a rien à guérir. Il y a à prendre soin.
Pourquoi il n'y a rien à guérir?
Parce que la guérison, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on guérisse, au sens profond du terme. Je crois qu'on apprend à vivre avec les traces de nos vies. Et pour moi, alors est-ce que c'est une manière de dire qu'on guérit? Bon, peut-être je joue sur les mots, hein. Mais quand même, guérir, ça voudrait dire qu'on efface, qu'il n'y a plus rien.
Alors là, on se situe, on est bien d'accord, sur le registre de l'âme et de l'esprit, de ce qui a blessé nos vies, parfois à travers le corps d'ailleurs. On ne parle pas d'une angine.
Non, mais c'est comparable. Je veux dire que les événements de nos vies qui sont passés sur nous ont laissé des traces. Voilà. Vous disiez en introduction, fort justement, voilà, il y a d'un côté de l'irréparable, hein, on n'y touche pas, je veux dire, c'est fait. Et puis toutes les traces de cet irréparable, c'est ça qui n'a pas arrêté depuis tant d'années de me questionner, que ce soit à la prison, je vous disais, ailleurs, bon, peu importe, mais surtout dans mon cabinet. En fait, c'est quoi ce qu'on se traîne de nos vies? C'est quoi cette mémoire, j'allais dire, qui s'est incrustée dans notre corps aussi, mais pas seulement dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre psychisme, et qui laissent des traces dont on ne comprend pas très bien d'où elles viennent. Voilà.
C'est ce qu'on appelle les traumatismes? Ou c'est plus large que ça?
Alors, je crois que c'est ce qu'on peut appeler les traumatismes, bien sûr, mais les traumatismes, il y en a de toutes sortes. Hein. Je peux être traumatisé d'avoir fait brûler mon poulet parce que y avait mes copains qui sont venus dîner et qui attendaient tellement que je réussisse mon poulet. Bon, mais c'est pas
là,
tout à fait...
Là, on est vexé, on est déçu.
Voilà. Mais c'est un peu chez certaines personnes qui ne sont pas du tout confiance en eux, et j'en connais dans mon cabinet. Un événement comme celui-là peut ne pas être anodin. Bon, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil que de perdre quelqu'un qu'on aime dans un accident. Bah, ou d'avoir soi-même perdu une jambe, un poumon, la tête, j'en sais rien. Bon, bref, se retrouver confronté à quelque chose d'un peu énorme, j'allais dire, dans nos vies.
Voilà. Dans votre livre, Isabelle Le Bourgeois, vous avez pris le parti de nous raconter aussi des histoires, avec bien sûr la discrétion et la retenue qu'exige votre métier de psychanalyste. Mais ces histoires, ce sont celles de certains de vos patients, probablement un peu modifiés pour pas que ce soit trop reconnaissable. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Parce que je crois profondément en incarnation. Et qu'on peut, en tout cas moi, c'est le choix que je fais depuis le début d'ailleurs où j'essaye d'écrire. Ma pensée vient, j'allais dire, de l'expérience, du vécu, de la rencontre avec des hommes, avec des femmes, et de ce qu'ils ont pu me raconter. Et c'est là-dessus que je m'appuie pour dire ou balbutier quelque chose que j'essaie de théoriser un tout petit peu. Voilà.
Thank you.
Alors Isabelle Le Bourgeois, on pourrait, entre guillemets, se contenter de s'appuyer sur cette expérience de psychanalyste qui est la vôtre. Mais je disais pour vous présenter que vous êtes aussi religieuse. Vous êtes engagée, vous avez donné toute votre vie, vous êtes une croyante, vous êtes une chrétienne. Est-ce que les deux se tricotent d'une manière harmonieuse?
Vous savez, jamais, je crois, au bout de toutes ces années de vie, je n'ai été aussi contente d'être les deux, c'est-à-dire psychanalyste et religieuse. D'avoir la foi en Dieu, que j'essaie de découvrir au fil des années, des mois, des semaines, des jours, et la foi en l'homme, bon, avec un grand H, hein, ça inclut la femme. Et ça se tricote très très bien. Je me souviens que quand j'ai fait mon analyse, la première grande vraie analyse que j'ai faite pendant une douzaine d'années, c'est la plus grande plongée spirituelle que j'ai jamais faite. Et pourtant, j'avais déjà fait deux fois les 30 jours des exercices spirituels de Saint-Ignace, qui normalement ne nous entraînent pas à la surface des choses. Mais les outils sont pas les mêmes. Ils vont forer ailleurs.
Mais on se situe... Ça rejoint les mêmes profondeurs.
Oui, ça rejoint les mêmes profondeurs, parce que la Terre, elle est la même chez chacun d'entre nous. On va pas changer de Terre parce qu'il y a Dieu d'un côté ou le psychisme de l'autre. C'est la même terre. Simplement, elle n'est pas labourée de la même manière. Et les mots pour la dire, cette terre, ne sont pas les mêmes. Mais lorsque j'ai découvert l'unicité de cette terre, la grandeur de cette terre dans laquelle j'avais la joie de pouvoir m'installer, beaucoup plus confortablement après toutes ces années d'analyse, beaucoup plus librement, beaucoup plus pacifiquement, je me suis dit, alors là, ça c'est extraordinaire. Hein, Dieu et l'homme, même combat. Quoi, voilà.
Et l'espérance là-dedans? Quand vous parlez d'irréparable.
Alors attendez, parce que là, vous m'emmenez ailleurs.
Pas tout à fait.
L'irréparable, c'est un constat. C'est quelque chose de tellement évident dans nos vies. Ça a eu lieu. Ça ne peut pas ne pas avoir eu lieu. C'est fait, c'est fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'espérance ou pas. C'est les traces de ça qui ont à voir avec l'espérance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ce qui est irréparable dans ma vie ? Irréparable, ben voilà, on a commencé à parler il y a tellement de minutes, bon, eh bien, c'est irréparable, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça, voilà. Ça fait partie de l'irréparable. Bon. Mais ça, c'est un irréparable anodin, mais c'est tout le temps dans nos vies, ça. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire les traces que ça laisse en nous. L'accident dont j'ai été témoin, la mort d'un proche, une grave maladie, une incapacité à vivre parce qu'il y a eu tel trauma qui est remonté brutalement, etc. Ça, c'est de l'irréparable. Qu'est-ce que je fais des traces de ça ? Qu'est-ce que je fais de ce que je constate dans mon impuissance à vivre avec ça ? Dans ma difficulté, dans mes sautes d'humeur, dans mes émotions incontrôlées ? C'est ça sur laquelle je peux... Alors là, il y a de l'espérance. Il y a plein d'espérance. Mais si je crois que je vais pouvoir changer l'irréparable, c'est foutu d'avance. C'est même plus la peine d'y songer. Ça n'a plus rien à voir avec l'espérance.
Isabelle Le Bourgeois, est-ce que la révélation de l'ampleur des abus dans l'Église catholique et notamment le travail mené par la Commission Sauvé ont également été en partie à l'origine de cet ouvrage et de cette thématique pour vous ?
Alors certainement, ça a précipité, j'allais dire, ce qui m'habitait déjà. Hein. C'est-à-dire que là, pendant toutes ces dernières années, j'ai tellement écouté... tellement été mise, j'allais dire, dans le bain bouillonnant des premières révélations, à la fois du côté des victimes comme du côté des agresseurs, que ça a pris de l'ampleur en moi. Ça, je me suis dit, attends, faut en faire quelque chose. Il se passe quoi, là? Voilà. Bon. Et tout à l'heure, je discutais avec une de mes consoeurs qui est rwandaise et qui me disait, ce serait tellement formidable que tu viennes nous parler de ce livre là-bas au Rwanda. En fait, dans nos sociétés, dans nos institutions, partout, l'irréparé est là, il traîne et il nous fait croire qu'il n'y a plus d'espérance. Bon. Or, justement, au sein de l'Église, qui s'en est quand même pris une sacrée déculottée, hein, bon, et qui continue d'une certaine façon, bon, c'est pas fini. Hein. Comment maintenir l'espérance ensemble ? Comment dire, attendez, non seulement c'est là, bien sûr, il y a toute cette fange, toute cette horreur, bon, mais il y a derrière tout ça encore énormément d'espérance. Si on arrive à nommer, et j'en parle dans mon livre à plusieurs reprises, voilà.
Et même à ce niveau-là, et de manière un peu collective, les réparer laisse la possibilité d'apprendre à vivre avec, mais de manière à être des vivants.
Bien sûr.
Ben, c'est être debout.
C'est pas l'irréparé qui aide à vivre, c'est de prendre conscience que l'irréparé est réparable, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Il y aura toujours les traces de quelque chose, hein, mais c'est d'apprendre à vivre avec ça et de se pacifier avec ça. Voilà, qu'est-ce que je fais de mon histoire? Comment je regarde ces cicatrices, non pas désespérément en disant « Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur ça a été. Oh là là, toutes ces cicatrices, c'est impossible à vivre. » Mais comment je les regarde comme une potentialité, j'allais dire, d'espérance encore de vie.
Isabelle Le Bourgeois, je rappelle que vous êtes psychanalyste, religieuse auxiliatrice et que vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Vivre avec l'irréparé ». On a posé quelques jalons dans notre précédent entretien. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête un peu sur le vocabulaire, justement. Pourquoi parler d'irréparé plutôt que de blessure? Est-ce que il y a une nuance fondamentale ou c'est une autre manière de nommer la même chose?
Ah, il y a dans l'irréparé et accent aigu quelque chose qui ouvre. Voilà, c'est pas ER, c'est E, voilà. C'est irréparé, mais il y a comme une espèce de...
Possible.
De possible qui s'ouvre. Une blessure, c'est concret, c'est un mot qui désigne quelque chose de précis. Irréparé, c'est tout un champ, vous pouvez l'écrire comme vous voulez d'ailleurs, champ, qui s'ouvre devant nous, voilà. Et on se dit, mais alors, ah oui, il y a de l'irréparé dans nos vies. Donc, s'il y a de l'irréparé, c'est qu'il y a de la réparation possible. Voilà. Ma voiture n'est pas réparée. Je m'excuse de prendre cet exemple aussi idiot, mais voilà. Elle n'est pas réparée, mais elle va être réparée. Voilà.
Mais vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Oui. Vous dites qu'on peut réparer un vélo, on peut réparer quelque chose qui est cassé. Est-ce que il n'y a pas un risque à utiliser ce terme en ce qui concerne les personnes? Comme si on était des objets réparables avec des pièces de rechange éventuellement.
Alors voilà, vous avez tout à fait raison. Merci de me poser la question comme ça. Parce que c'est justement un des dangers. C'est de croire, parce que le champ s'ouvre sur le réparable possible, que tout va l'être et de la même manière qu'avec des objets ou, j'allais dire, des choses matérielles. Non, c'est tellement subtil, un esprit humain, une âme, un cœur, bon bref. Et du coup... comment dire, l'irréparé, c'est d'abord prendre conscience que quelque chose a eu lieu, qui est irréparable d'abord, voilà, et que c'est ça qui a causé l'irréparé. Voilà, j'ai perdu ma mère, elle est perdue, elle est morte, voilà, ça c'est irréparable, mais ça a été particulièrement traumatisant pour moi, par exemple, hein, bon, c'est de l'irréparé, ça. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais travailler ça? Je me rends compte que je suis triste quand les gens évoquent leur mère, quand quelque chose de ma mère me revient. Il y a quelque chose qui est de trop. C'est trop douloureux. C'est trop. Mais ce trop-là dit quelque chose d'un traumatisme qu'il va falloir que j'aille regarder.
Et ce trop fait obstacle à une énergie de vie?
Absolument. On voit bien dans nos vies tout ce qui fait obstacle à la manière dont on voudrait vivre ou à l'élan de vie que nous avons en nous. Hein. Nos émotions, si elles sont trop débordantes, elles font obstacle. Notre trop grande émotivité, notre colère, notre jalousie, notre envie, notre je sais pas quoi, enfin bref, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui nous habitent, s'ils sont trop violents, s'ils prennent trop de place, ils nous envahissent et ils empêchent que ça circule librement à l'intérieur de nous. Ils font obstacle.
Finalement, l'objectif, c'est de les faire entrer dans une dimension plus que supportable, c'est-à-dire qu'ils soient, est-ce que je peux utiliser le mot confortable ?
Oui, mais avant, il faut les comprendre, il faut comprendre.
Oui, alors on va y revenir, mais moi je voulais revenir au mot de guérison. L'irréparer, ça ne se gomme pas.
Non.
Ça n'est pas comme on prenait cet exemple, une angine, une bondeuse d'antibiotiques, on n'en parle plus. Là, c'est pas ça.
Oui, sauf que même avec l'angine, des traces vont rester. Vous allez être plus sensible d'autres fois à une nouvelle angine. Voilà. En fait, tout garde une trace. Et si j'ose dire, nous sommes traçables. C'est extrêmement important. D'ailleurs, on voit bien comment, du petit bébé que nous avons été, nous sommes devenus des adultes marqués par le temps qui a passé. Nos rides, notre peau, tout sur nous dit le temps qui passe. l'irrémédiable du temps qui passe, mais il y a de l'irréparé sur nos visages. Mais c'est beau aussi. C'est beau de se montrer avec cette vulnérabilité, simplement cette vulnérabilité, il vaut mieux quand même qu'elle ne soit pas trop inconfortable.
Alors on a parlé de l'irréparé essentiellement, Isabelle Le Bourgeois, mais il y a ce mot un peu abyssal quand même, l'irréparable. Il y a quelque chose de définitif dans irréparable, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, commettre l'irréparable, en général c'est ôter la vie à quelqu'un.
Absolument.
Ce mot, il est presque inquiétant.
Il est très inquiétant, on l'aime pas du tout, hein. Et puis il nous renvoie d'abord à la mort, hein, parce que on ne peut pas revenir en arrière, c'est définitif, c'est clos. Voilà, c'est fini, c'est plus possible. Oh, ça a quelque chose de terrible. Hein. Oui. Et je pense que notre angoisse de la mort, elle vient encore beaucoup de ça. Hein. C'est ce côté absolument définitif de l'affaire. Hein. Personne n'est jamais revenu, enfin, sauf un dont on parlera, j'espère, un
on
peu plus tard.
On va en parler.
Mais justement, je veux dire, nous, on n'est jamais revenu. Hein. Je crois qu'on a, un mal fou, avec, et c'est normal, hein, avec ce côté implacable de l'irrémédiable. C'est implacable, ça.
Alors il y a la mort, bien sûr, mais il y a aussi toutes ces choses qu'on dit, qu'on fait qu'on subit sur lesquelles on ne pourra jamais revenir.
Absolument.
Parfois même dont on est l'auteur. Des
oui.
mots qu'on dit.
Absolument.
Et après, une fois que c'est fait, on regrette de les avoir prononcés.
Absolument. Mais ça, c'est irrémédiable, irrévocable.
C'est voilà. le cas de le dire.
Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est irréparable. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas réparer ça, là. C'est-à-dire que cet événement-là ne sera jamais réparé. Mais les conséquences hein, de cet événement le seront. Le viol, c'est irréparable. Irréparable. Ça a eu lieu, voilà. L'accident, ça a eu lieu, c'est irréparable. Voilà. C'est cette violence-là qui nous est faite, hein, j'allais dire, dans nos vies. Et la guerre, en ce moment, dans le monde, toute la violence faite à des hommes et à des femmes et à des enfants, tous les jours qu'on nous rapporte, voilà, c'est de l'irréparable. Voilà. Et là, les traces de l'irréparable que sont l'irréparé, on n'a même pas le temps de s'en occuper, hein. On nous balance les morts, les viols, les tortures, les incapacités à soigner les gens, la faim, tout ça. Tout cet irréparable-là, tout cet irrémédiable-là. Et on ne nous dit pas qu'il y a de l'irréparé possible. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper.
Est-ce que Jésus, dans l'Évangile, puisque vous avez commencé à parler de lui tout à l'heure, nous dit quelque chose à travers les rencontres qu'il fait, à travers les paraboles, de cette notion d'irréparable et d'irréparé qui laisse une possibilité de vie.
Mais tout le temps. Il est l'homme, j'allais dire, qui nous enseigne d'irréparé. Il est celui, quand il dit par exemple à la femme adultère « Va, ta foi t'a sauvée », il lui dit à quel point elle a en elle les ressources qu'il lui faut. Pour sortir de l'irréparable qui est commis, ben, l'adultère, c'est commis, elle allait se faire lapider, c'était la loi, bon, voilà. Et lui, il la sort de là, en lui disant, ta foi t'a sauvé, tu peux compter dessus, va. Alors, il lui dit bien, ne pêche plus. Bon, ça faudrait beaucoup de temps pour expliquer cette affaire-là, parce que on va croire que ça va être facile et qu'elle va plus rien faire du côté du péché, ce qui est absolument pas ça. Bon, mais elle, en tout cas, va, ta foi t'a sauvé, tu peux t'appuyer dessus. Ça, tu vas pouvoir t'en sortir, quoi. Voilà. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Et toutes les récits de guérison, ils les renvoient à, ils sont guéris, n'empêche que la trace de la maladie va rester. C'est-à-dire qu'il va pas, il va falloir vivre avec ça, hein. Il va falloir que tu portes prennes ton grabat, puis que tu,
c'est ça.
Et que tu l'emmènes avec toi, hein.
Le fameux paralytique, voilà. De la piscine de Bethesda.
Eh ben, exactement.
qui se lève, qui retrouve l'usage de ses jambes, mais à qui Jésus dit, va, prends ton grabat.
Ah, voilà. Et prends ton grabat, et là, je crois que c'est ça. Voilà. Nous aussi, il faut qu'on se trabanne notre grabat. Simplement, va. Ça veut dire que sur la foi de cette parole de vie qui nous encourage à aller de l'avant, nous allons y aller ou pas. Et quand j'entends « va, ta foi t'a sauvé », pour moi, c'est une parole d'une force absolument inouïe, ça, hein, qui nous renvoie à nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on est capable de croire cette parole-là, d'aller de l'avant et de se dire « bon, on va... l'irréparé va vers l'espérance. » Voilà.
Ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on peut puiser en nous.
Oui.
Nos ressources. Qui nous remet debout.
Oui.
Vous le voyez, vous, en tant que psychanalyste, ça ?
Je n'arrête pas de le voir. Parce qu'en fait, c'est ce que je sollicite le plus chez les gens.
C'est pas vous qui les sauvez ? C'est pas vous qui les guérissez ? C'est pas vous qui les réparez ?
Ah bah alors là, écoutez, si c'était moi, là, il faut m'enfermer tout de suite. Hein. Et puis, il faut me dénoncer à l'ordre des psychanalystes. Et il faut me dénoncer comme bonne sœur. Hein, parce que dans le genre qui aurait de l'emprise, ce serait pas mal. Hein. Non, mais évidemment, c'est pas moi. Moi, je fais rien d'autre, si j'ose dire, que d'être témoin. Et de les aider à prendre conscience qu'il y a en nous. Qu'il y a en nous, en chacun de nous, et donc en eux, une force qu'ils ne soupçonnent pas. Voilà. Et cette force-là, qui est une force de vie, ils ne seraient pas là à me parler s'ils ne voulaient pas s'en sortir quelque part, quand même. Hein. Bon, s'ils n'auraient pas fait toute cette démarche, qui est quand même coûteuse à plein de points de vue. Hein. Bon, s'ils n'avaient pas cette intention et cette foi que quelque chose va pouvoir changer, que quelqu'un en eux va se mettre debout autrement. Voilà. Et que moi, je suis la personne qui va les aider à croire en cette nouvelle personne en eux. Enfin, je dis nouvelle. En tout cas, nouvellement connue. Qui existait déjà, mais nouvellement connue. Voilà. Moi, je pourrais leur dire aussi, va, ta foi t'a sauvé.
Dans votre livre « Vivre avec l'irréparé », Isabelle Le Bourgeois, vous racontez, vous nous permettez de comprendre comment l'irréparable, qui fait irruption dans nos vies parfois, souvent, laisse des traces. Ces traces, c'est ce que vous appelez l'irréparé. Qui peut l'être un jour ? Peut-être. Mais est-ce que vous pensez que tout ce qui est irréparé peut justement l'être ? Ou bien qu'il y a des irréparés qui sont condamnés à le rester ?
Alors, quand vous dites les irréparés qui peuvent l'être réparés,
hein,
je rajoute.
Oui, qui peuvent être réparés.
Bon, faut s'entendre sur le mot réparation. Hein. Je cite l'art japonais du kintsugi, qui est un art tout à fait intéressant parce que il efface pas la trace, il la magnifie. Hein, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, il s'est passé ça à un endroit et à un moment, bon, et cette brisure, cette cassure, cette blessure, bon. Elle va être magnifiée avec de l'or, voilà, pour la rendre non seulement visible, mais pour dire qu'elle a toute sa place et qu'elle dit quelque chose du processus. Bon. Est-ce que c'est ça une réparation ? Peut-être. Bon, pour les âmes, en tout cas, que je rencontre, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours cette illusion qu'on va se guérir de tout, qu'on va tout effacer. C'est comme avec le pardon. On va demander pardon, on va recevoir les solutions, et ça y est, c'est effacé. Mais c'est absolument pas le cas. Les choses n'effacent rien, rien n'efface rien. Tout reste. C'est la manière de le vivre, de le faire vivre ou de le laisser vivre en soi, qui va tout changer. Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur des conséquences d'un acte que j'ai posé il y a 15 ans, 20 ans, voilà, d'une parole terrible que j'ai dite, d'un accident qui a eu lieu, bon, peu importe, le trauma. Et pourquoi j'en ai tellement peur ? Pourquoi c'est si compliqué ? Alors, si je crois qu'en ayant parlé avec quelqu'un dont je pense qu'il va me donner des conseils, des clés de lecture, et que je vais tout découvrir grâce à l'autre, alors d'ailleurs, il va falloir faire attention, parce que je ne suis pas ce psy-là, évidemment, hein, et attention à ces psys-là. Bon. Mais si je crois ça, alors va falloir qu'on cède à sortir d'une illusion. Voilà. Tout n'est pas réparable. Non seulement tout n'est pas réparable, mais tout ne sera pas réparé. Ce qui va être réparé, entre guillemets, c'est la difficulté à vivre avec l'irréparé.
Mais le premier,
c'est déjà énorme.
C'est énorme.
Mais c'est énorme.
Vous l'avez déjà dit, c'est-à-dire que le premier pas, c'est en prendre conscience.
Voilà.
Et laisser jaillir ce désir d'aller mieux et d'être libéré dans une certaine mesure de cette souffrance.
Absolument. Il y a un irréparé, alors bon, j'ai pas eu le temps ni la possibilité de parler de tout dans le livre, mais la culpabilité fait partie des irréparés absolument gigantesques. Bon, voilà. On peut se travailler une culpabilité toute sa vie qui va nous empêcher de vivre. Bon. Ça résout rien. Je veux dire, ça résout rien du tout, la culpabilité. Bon. Donc, comment est-ce que je vais, à un moment donné, faire en sorte que mais je vais prendre de la distance suffisante avec tout ça pour se dire, bon, attends, toute ma vie se résume pas à ça, quand même. Bon, comment je vais apprendre à vivre plus librement dans les pièces de mon château intérieur, comme j'aime en parler, donner cette comparaison, voilà. Et à visiter un peu plus souvent les pièces que j'ai du mal à visiter. Il y a tout ça derrière comme enjeu. Mais la première des démarches, c'est de nommer l'irréparable. D'où ça vient, cet irréparé? Il vient de quelque part. Bon. Tant que je n'ai pas nommé l'irréparable dont il vient, donc je n'ai pas été entendu, écouté et entendu par des oreilles, j'allais dire, suffisamment amies, suffisamment accueillantes, eh bien, je ne pourrai pas nommer ou savoir d'où vient mon irréparé. Et j'en resterai toujours à mes balbutiements, à mes émotions, à mon incontrôlé. Voilà.
Est-ce que ça suppose de toujours avoir recours à un psychothérapeute, psychanalyste?
Non, moi je sinon alors tout le monde devrait faire une psychanalyse, évidemment pas. Bon, mais ça suppose de tomber sur quelqu'un qui sache écouter. Il y a plein de gens qui savent écouter et qui sont pas du tout forcément des psys ou des je sais pas quoi. Bon, mais c'est pas parce que vous êtes psy ou parce que vous êtes prêtre que vous savez écouter. Et je dis bien même pour les psys. Les gens connais qui ne savent pas écouter. Alors, je prétends pas être la plus grande écoutante de la Terre, évidemment. Hein. Mais quand même, comment dire, écouter, c'est se laisser, j'allais dire, atteindre jusqu'au bout par la parole de l'autre.
Hein. Se laisser toucher.
Ah, ben oui.
Accepter de se laisser toucher.
Ah oui, et puis que la parole, elle nous rejoigne au plus profond. Mon livre, il vient de ça. Hein. Vivre avec l'irréparé, je l'ai écrit parce que j'ai essayé d'écouter les gens jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à me dire. Sans leur dire, bon, écoutez, ça... Bon, ça va, vous l'avez déjà dit, bon, c'est bon, hein, hop, on s'arrête là. Hein. Vous savez, moi, j'ai été très inquiète une fois d'une psychanalyste qui voulait absolument travailler avec moi, bon, peu importe, hein, et qui me dit, bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai aucune expérience, elle avait 60 ans, hein, j'ai aucune expérience des questions d'abus sexuels. Je me suis dit, mais comment c'est possible, ça? Mais elle n'a pas entendu, alors. Elle n'a pas entendu, parce que forcément, il y en a eu dans son cabinet. Donc elle n'a pas entendu. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ou un autre patient qui me dit, ben, lorsque j'ai parlé, commencé à parler d'un peu d'abus sexuels éventuels dans ma famille, la psy m'a dit, oh, sujet suivant, de toute façon, dans toutes les familles, il y en a. On ne veut pas entendre, c'est facile.
Hein. C'était pas recevable pour cette personne.
Vraisemblablement. On n'est pas psy dans ces cas-là, vous voyez. Ou en tout cas, on fait attention à ses propres limites.
Isabelle Le Bourgeois, pour arriver à nommer, à dire ce qui en nous est irréparé, ce qui nous fait souffrir, ce qui prend trop de place, ce qui suscite trop d'émotions, d'abord il faut probablement du courage. Et puis ça demande un travail de trouver le mot juste ou de discerner finalement c'est ça. C'est pas toujours facile.
Oh non. Et vous dites très bien, il faut du courage. Oui, parce que d'aller visiter ces profondeurs, on se doute bien que dans la profondeur, il y a plus, j'allais dire, d'ombre que de lumière. Bon, a priori. Hein. Et donc, c'est ça qui fait peur. Hein. Puis beaucoup de gens me disent, oh ben finalement, je préfère vivre en sachant pas tout. J'arrive à peu près à gérer. Bon, s'il y a des moments, c'est pas facile, mais j'arrive à peu près à gérer. Et puis jusqu'au jour où il y a la crise qui déborde. Parce qu'il y aura l'événement traumatique de trop qui va bousculer
réactiver.
Complètement. Voilà. C'est ce que je mets, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est très connu, mais c'est tellement vrai dans nos vies aussi. Sur un truc absolument anodin, tout va basculer. Alors là...
On ne peut pas faire autrement que de se coltiner cette question quand
là,
ça surgit.
Là, alors là, ou bien alors, on tombe dans des dépressions terribles, dans des incapacités à vivre, on se met à avoir des addictions X, Y, Z, voilà, et plutôt X qu'autre chose d'ailleurs, voilà. Et ça va servir de paravent, voilà, de cache-misère.
Et en fait, on va être dans une sorte de survie plutôt que de vie avec un grand V. Parce qu'on pourrait, comme vous le disiez, s'en contenter, entre guillemets, ou préférer se maintenir dans cet état-là, parce que vous dites que souvent ça explose, mais pas toujours finalement. On peut être dans une espèce de malaise, de mal-être chronique, et puis se dire, bon ben voilà, c'est comme ça, et ma vie c'est ça, quoi.
Absolument, mais on en connaît plein, hein, des comme ça, et moi je leur jette pas la pierre. Hein.
Mais on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour des vies un peu comme ça, bancales, on est fait pour quoi finalement?
Oh bon, ça si je savais, bon, je veux dire, je suis pas Dieu, bon, mais il me semble quand même que c'est pas tout à fait ça, une vie. C'est court une vie, hein. Bon, je le dis d'autant plus maintenant que j'ai quand même quelques dizaines d'années à mon compteur. Bon, mais
vous avez bien une intuition quand même,
oui,
comme religieuse,
oui,
donc comme croyante.
Pas seulement une intuition, disons, j'ai ma foi.
Vous pensez que l'humanité, elle est faite pour quoi? C'est quoi sa vocation?
Elle est faite pour être dans le cœur de Dieu. Et elle est faite pour être avec Dieu, dans son cœur. Bon. Et quand je dis ça, ça peut paraître extrêmement pieux, alors que je ne le suis pas. Bon.
Mais dans quel état?
Alors,
est-ce qu'on peut être dans le cœur de
Dieu?
Attendez.
Ben justement.
En morceaux, en miettes?
Eh ben on peut être dans le cœur de Dieu en miettes. Voilà. Et je crois qu'il y a des gens qui ne pourront jamais être autrement qu'en miettes. Et ceux-là, j'ai sur eux un regard de très très grande douceur et de...
Compassion.
Oui, le mot compassion est un mot compliqué, je trouve. Mais en tout cas, je les regarde avec beaucoup de tendresse. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ne pourront jamais être autrement qu'en miettes. Et avoir du mal à recoller deux, trois morceaux. Ils savent bien que c'est compliqué. Bon. Il y a des gens qui pourront jamais sortir de leur dépression. Il y a des gens qui pourront jamais sortir de leur addiction. Peut-être. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas faits pour la même joie d'être dans le cœur de Dieu que moi. Voilà. Je crois qu'on est très inégaux face à la vie et que
on n'a pas les mêmes ressources.
Oh, oh là là, on n'a pas du tout les mêmes ressources.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est qu'il y a de l'irréparé qui est vraiment irréparable.
Il y a de l'irréparé qui ressemble un peu à de l'irréparable, oui. Et mais il est pris. Alors, je le dis dans une partie de mon livre, il est pris dans la prière collective. Cet irréparé là. Voilà, c'est ce que j'appelle la communion des saints. Hein, c'est-à-dire toute cette capacité que nous avons à nous mobiliser les uns avec les autres, ça c'est ma foi, hein. Là où les autres ne peuvent plus, ceux qui peuvent prennent le relais, voilà. Et quand ceux-là ne peuvent plus, d'autres prennent le relais. Il y a toujours un relais, j'allais dire, qui soutient le monde dans sa manière d'être debout dans la vie quand même, voilà. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est la fraternité, le compagnonnage, l'altérité vécue comme ça, et du coup, la communion des saints.
Isabelle Le Bourgeois, pour réparer ce qu'il est dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps parfois, est-ce que y a des techniques imparables?
En tout cas, il y a des gens qui me demandent beaucoup de recettes. Hein, entre parenthèses, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'imparable. Il y a de l'écoute, de la bienveillance, quoique c'est moi assez galvaudé, mais enfin, d'être là avec tendresse et avec intérêt et goût pour l'autre. Voilà. Vous savez, déjà, si vous mettez ça ensemble, il se passe des choses.
Cette bienveillance, cette écoute.
Cet être-là profond.
Ça peut venir d'une amie, d'un conjoint,
oui.
D'un psy,
oui.
D'un accompagnateur.
Oui. D'un enfant.
Est-ce que ça peut venir de soi-même aussi? Une manière douce de se considérer. Vous avez parlé de la culpabilité, par exemple. Est-ce que ça peut commencer ou aboutir à être plus doux avec soi-même?
Pas commencer, parce que si ça commence, à la limite, ces personnes-là n'ont pas besoin de moi. C'est justement parce qu'on n'est pas dans la douceur avec soi-même, hein, qu'on va chercher une oreille qui pourrait l'être. Bon. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est les plus nuls de la Terre. Hein. ils savent rien faire, personne ne les aime, ils savent pas aimer, ils sont complètement nuls dans leur manière de faire. Donc tout ça là, je l'entends, hein. Mais derrière tout ça aussi, j'entends des gens qui viennent et qui me disent, ah mais moi j'ai eu une enfance fantastique, hein. C'était formidable mon enfance, hein. Je comprends pas ce qui s'est passé du coup. Alors, je me méfie toujours des gens qui me disent qu'ils ont eu une enfance fantastique. Bon, parce que les enfances fantastiques, ça n'existe pas comme ça. Bon, voilà.
C'est souvent qu'il y a un déni de quelque chose.
Oui, puis ça sert. Vous savez, nous nous racontons nos propres mythologies, hein. Nous nous faisons notre propre histoire et nous nous sommes racontés une histoire sur nous-mêmes qui nous a tenus aussi, hein. Voilà. Il s'agit pas de la déconstruire en disant, alors attendez, hein, madame, vous venez me voir, vous me racontez une histoire sur vous, là. Tout est faux, hein. Bon, alors on va tout reprendre et on... Évidemment pas. Évidemment pas. Si on s'est raconté tout ça, c'est qu'on avait besoin de se raconter tout ça.
Pour tenir.
Pour tenir. Vous savez, j'aimerais bien écrire sur les systèmes de défense. Qu'est-ce qui fait qu'on se défend? Et de quoi on se défend? Et comme je dis souvent à mes patients, avec un peu d'humour, on n'achète pas un coffre-fort pour mettre un euro. Donc si on achète un coffre-fort, c'est qu'on a un trésor à y mettre. Du coup, tous les coffres-forts que nous avons, et qui nous protègent du reste de nous-mêmes, d'une part, et des autres, d'autre part, de Dieu aussi, tout ce coffre-fort-là, comment petit à petit on va en ouvrir les portes? Mais il ne s'agit pas de le faire exploser. Parce qu'il nous tient. Et ça, vous savez, j'ai beaucoup de respect là aussi, hein, pour ces gens qui ont mis en place toute une série de, j'allais dire, de béquilles à droite, à gauche, de paravents, de murs, et on tient tous avec des choses comme ça.
Alors, si on tient, pourquoi faudrait-il ouvrir le coffre-fort?
Parce que ces personnes-là, ça tient et en même temps, ça fait souffrir. C'est-à-dire que les murs grincent, hein, et ça sent le rouillé, les fuites de partout. Le dispositif n'est pas étanche. Hein.
Et le trésor qui est dans le coffre, du coup, on n'y a plus accès peut-être
non,
aussi.
Non, on n'y a plus accès, voilà. Et tout est rouillé, donc on ne trouve plus la clé. On sent bien qu'il faudrait ouvrir des trucs, mais où est-ce qu'elle est passée la clé, etc., etc. Voilà. Donc on a perdu, j'allais dire, la trace de soi-même. Comme s'il manquait le GPS, là, voilà, hein, pour parler en langage moderne. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est extraordinaire, ça. Mon personnage d'Yvette, qui est le seul vrai personnage, hein, celui-là, je ne l'ai pas rangé. Mais comme elle est morte et que tout le monde s'en fiche d'Yvette, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est qu'Yvette dans une vie, hein, franchement. Moi, c'est un personnage emblématique pour moi. La seule chose qu'elle arrive à dire, non pas je m'appelle Yvette, mais je suis Yvette. Ça veut dire que son trésor à elle, elle l'a pas perdu.
Quand elle dit « Je suis Yvette », Isabelle Le Bourgeois, cette femme complètement cabossée, elle arrive quand même à dire qu'elle existe, qu'elle est quelqu'un. C'est fondamental.
Personne n'a pu lui ravir ça. Aucune blessure de sa vie n'a pu lui ravir ça. La folie, bon, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans sa vie qui s'est installé. Mon système de défense, moi je crois beaucoup souvent que la folie qui s'installe comme ça peut être l'ultime paravent ou mur, disons, contre quelque chose d'absolument impossible à vivre. Bon, voilà, d'un rempart. Mais qu'elle puisse dire « je suis Yvette », c'est qu'au fond d'elle, quelqu'un est resté très vivant. Voilà. Et qu'elle sent qu'elle peut me le dire à moi. Bon, et quand quelqu'un passe dans le couloir et qui est censé connaître son prénom, l'interpelle en appelant Germaine, c'est tellement hors du temps, ça.
C'est très violent, en plus.
C'est d'une violence invraisemblable.
Vous avez dit rester vivant. Qu'est-ce que c'est être vivant?
Un médecin, c'est facile pour un médecin de dire ce que c'est que d'être vivant ou pas vivant. Hein. Voilà, bon, le cœur s'arrête, on est mort. Bon. Moi, je ne sais pas trop. Je dirais quand même qu'on est vivant tant que on est capable, alors, soit de dire je désire, me sortir de ça, faire autrement, voilà. Ou bien de dire j'en peux plus, aidez-moi. Ou bien d'être tellement passé partout qu'il ne reste plus que vous ne pourrez pas sortir de moi-même le « je suis ». C'est-à-dire « je suis resté quelqu'un ». Ça, c'est de la vie aussi. Voilà. Et une vie qui s'oppose à tout le reste. Voilà. Yvette, elle s'oppose à tout le reste du système qui a l'air et qui est complètement fou. Alors,
elle est en hôpital
psychiatrique. Oui, en psychiatrie, oui, depuis des années et des années et des années. Tout le monde l'a laissé là. Bon, elle ne présente aucun intérêt, Yvette, pour personne. Personne ne peut s'imaginer qu'il y a un être vivant à l'intérieur. Voilà. Je suis Yvette. Donc elle me le dit bien, à moi, qui suis peut-être capable de l'entendre. En tout cas, ça me bouleverse complètement. Bon. Ça fait des années de ça, des années que je l'ai rencontrée, Yvette, et elle est restée... J'ai une photo d'elle, parce que à l'époque, on pouvait, non seulement on pouvait, mais on devait prendre des photos quand on était au contrôle général des lieux de privation de liberté. Donc j'ai une photo d'elle en face de moi, dans mon bureau.
Et elle vous dit quelque chose de cette vie qui est possible,
oui,
qui persiste envers et contre tout, même quand on a le sentiment que l'irréparé est totalement irréparable.
Oui, mais là, on est au-delà de ça avec Yvette. C'est pour ça que je démarre avec elle. On est complètement au-delà de ça. C'est-à-dire qu'Yvette témoigne du fait que, malgré les bourrasques, les tempêtes, les séismes de sa vie, et puis ce claquemurage dans le silence et dans, soi-disant, la folie, hein, puisqu'elle est traitée pour ça, bon, peu importe sa maladie, ça n'a aucune importance, elle est restée capable de dire « je suis ». C'est donc qu'elle est encore très vivante. Contrairement à ce que tout le monde croit. Et puis le poème qu'elle me tend à la fin, et qui dit bien l'âme dans laquelle elle est. Voilà.
Oui, elle vous tend un poème.
Elle me tend un poème, ouais.
Un papier froissé.
Un papier froissé, oui. Oh, ça, c'est un moment extraordinaire pour moi. Ouais. Où tout d'un coup, je veux dire, cet être qui paraît totalement inutile, complètement oublié de tout le monde, dans l'irréparé, irréparable, voilà, et dont tout le monde se fiche complètement, sous
elle est un peu à la casse d'ailleurs, on l'a mise un peu à la casse.
Ah ben, complètement à la casse, complètement à la casse, comme vous dites, absolument. Elle est prête à être broyée par le système, complètement, voilà, comme, voilà. Et on lui donne à manger, on lui donne un lit, mais c'est tout, voilà. Le reste n'intéresse personne. Mais ce poème qu'elle est capable de sortir de sa poche, sachant qu'elle va, comment dire, elle s'intéresse à moi, qui normalement vient pour inspecter les lieux. Bon, elle a très bien compris, je suis sûr, qui j'étais. Bon. Voilà, elle ne m'en dira pas plus, et on ne s'est jamais rien dit de plus. Hein. Mais je suis Yvette, pour moi, c'est... Et quand je désespère des gens, de moi, de situations, je l'entends me dire, je suis Yvette.
Mais est-ce qu'elle ne vous a pas dit, je suis Yvette, parce que vous lui avez dit, je suis Isabelle ?
Oh, vraisemblablement, elle s'est sentie autorisée. Parce que moi, je ne lui dis pas...
Vous êtes entré en contact, plus qu'en contact, vous avez essayé de créer un lien
moi,
avec
je ne lui ai
elle.
Pas dit, je m'appelle Isabelle. Je lui dis, je suis Isabelle. Voilà. Et je pense que ça, elle a très bien compris à quel niveau je me mettais par rapport à elle. Voilà.
C'est-à-dire
je suis. C'est-à-dire, je me présente à toi, je suis. Je ne m'appelle pas seulement. Je suis une personne qui vient vers toi. Voilà. Je suis dit ça. Je suis un être vivant qui s'adresse à toi, qui n'est pas seulement un prénom, mais qui a une histoire, qui a une vie. Donc un être vivant parle à un autre être vivant et pense que c'est de lui dire qu'il est un être vivant va pouvoir lui permettre d'être un être vivant. Bingo.
Est-ce que ça aura changé quelque chose pour elle ? Ça a changé quelque chose pour vous, puisque vous vous en souvenez toujours, et que sa photo est sur votre bureau, mais elle ?
J'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Elle ne me le dira pas, elle ne me le dira jamais. N'empêche qu'elle me donne ce poème.
Il y a quelque chose de réparé de ce processus-là de
là-dedans. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement paisible chez elle. Hein. Elle n'est absolument pas angoissée, énervée. Elle est simplement très attentive quand elle prend son virage pour tourner dans le couloir parce qu'elle a très peu de force. Hein. Donc elle fait attention. Mais il n'y a pas d'angoisse chez elle. Il n'y a pas. Elle est au-delà de ça. Elle est déjà dans un monde. Et quand elle dans un monde ailleurs où les autres ne la retrouveront pas. Bon. Et quand elle contemple dehors, qu'est-ce qu'elle contemple ? J'en sais rien. Moi, j'ai contemplé avec elle, j'ai contemplé des choses, mais je ne sais pas ce qui se passait chez elle.
Isabelle Bourgeois, nous concluons avec vous cette série d'entretiens consacrée à votre livre « Vivre avec l'irréparé » paru chez Albin Michel. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et religieuse auxiliatrice. Isabelle Bourgeois, vous avez été également aumônier de prison. Vous citez un des personnages qui intervient dans votre livre, Malo, et qui parle d'un Dieu pervers, d'un Dieu qui nous attend au tournant. Ça nous traverse l'esprit quand on souffre, ou bien même ça peut aller jusqu'à n'être plus que l'image qu'on a de Dieu.
Oh ben oui, enfin moi il traîne encore beaucoup, malgré le livre de Maurice Bellet sur le sujet, qui était quand même une sacrée manière de remettre, j'allais dire, en ordre nos idées. Ça traîne toujours, hein. Dieu, finalement, est toujours d'abord du côté du Tout-Puissant, et plutôt du Tout-Puissant qui nous attend au tournant, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais assez bien pour Dieu. On ne fait jamais assez bien pour ses parents, on ne fait jamais assez bien pour la maîtresse, on ne fait jamais assez bien pour son mari, on ne fait jamais... Bon, bref, il y a toujours quelque chose, on ne fait jamais assez bien. Bon. Il y a toujours quelque chose qui traîne comme ça. Hein. Bon. Le désir de faire mieux et d'être plus en adéquation avec ce qu'on croit qu'on attend de nous.
De mériter, donc, de mériter les choses.
De mériter les choses, d'être en adéquation avec ce qu'on croit que l'autre attend. Voilà. Donc, de mériter son amour, de mériter son attention, de mériter son pardon, etc. Bon, etc. Voilà. Et avec Dieu, alors ça prend des proportions terribles, parce que Dieu, forcément, il est tout puissant. En plus, il sait tout de nous. Or, moi, je prétends que, justement, puisqu'il pose à l'origine la question « Où es-tu ?», il ne sait pas tout. Et qu'il nous convoque, justement, et il nous le dit bien. Si je te demande où tu es, c'est que tu as à me répondre. Ça veut dire que je ne sais pas tout de toi. Bon. Ça, c'est quand même un truc qu'on oublie. Hein, c'est très embêtant, parce que c'est comme des parents. Il y a des parents qui respectent, j'allais dire, l'intimité de leurs enfants. Il y en a d'autres qui vont ouvrir leur courrier ou saisir leur téléphone pour voir ce qui se passe dedans ou les épier. C'est épouvantable.
Ça, c'est pervers.
Oh, mais complètement. Mm. Bah, enfin, de quoi je me mêle? Mais comment la confiance peut-elle naître? Voilà. Il n'y a pas de confiance possible sans altérité, donc sans distance, donc sans capacité à se cacher l'un de l'autre. Étonnamment. Parce qu'on pourrait croire que la confiance, c'est de tout se dire. Non, c'est aussi la capacité à se cacher.
Même avec Dieu.
Bon, surtout avec Dieu. Ah, surtout avec Dieu, parce que, bon, et je crois qu'il respecte profondément ça. Enfin, moi, c'est mon expérience. Moi, je ne suis pas Dieu, évidemment, et je ne sais pas plus que les copains quelque chose sur Dieu. Je parle de mon expérience.
Alors, il y a ces fausses images de Dieu, d'un Dieu qui nous punirait, qui nous attendrait au tournant et qui se frotterait les mains quand on tombe dans le panneau, quoi, en quelque sorte.
Ah, oui, oui.
C'est double peine. Non seulement Dieu ne nous aide d'aucune consolation, mais en plus, il en remet une couche, si j'ose dire.
Oui, c'est-à-dire qu'il est par excellence celui qui demande le plus à chacun de nous. Voilà. Il est le plus exigeant. Voilà. C'est terrible, parce qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Et le mérite, là, alors, on court après toutes les 5 minutes. Hein. Bon. Et on n'y arrive pas, parce qu'on ne peut pas. Et ce n'est pas possible.
Et on oublie que Jésus, lui, il a été cloué sur la croix, il est mort. Et quand il se présente aux apôtres, eh bien, il se présente avec la trace de la torture qu'il a subie, avec ses blessures, les stigmates. On est complètement à l'opposé avec ces deux images-là qu'on vient de décrire, du Dieu que Jésus est venu nous révéler.
Ah, mais complètement. Pour moi, je ne cesse de contempler ce visage de Jésus crucifié. Ce Jésus irréparé, comme j'ose l'appeler. Alors ça, je suis un peu iconoclaste, mais j'y tiens beaucoup. Bon. Ce Jésus qui est... Alors ça rejoint une intuition profonde chez moi. Et non seulement il est mort, si j'ose dire, mais il a plongé comme mort au milieu de nos enfers à nous. Il est descendu dans notre séjour des morts à nous. Mais comme il ressuscite, il remonte avec toute cette fange de notre humanité, toute cette incapacité à vivre, toutes nos ombres, voilà, il les ramène à la lumière, si j'ose dire. Bon. Mais en même temps, il ramène ses propres ombres, inscrites sur sa peau. C'est pas simplement regarder mes plaies, regardez, c'est bien moi Jésus, hein, vous avez vu, hein,
c'est pas
juste un autre,
la
hein.
Preuve que c'est le bon, quoi.
Voilà, c'est la preuve que c'est le bon. Ça, alors vraiment, ce truc, c'est vraiment pas suffisant comme interprétation pour moi. Hein. Mais c'est aussi de dire. Non seulement c'est moi, mais j'ai pas réparé ça. Et je veux pas réparer ça. Parce que c'est comme ça que je suis mort, c'est comme ça que je ressuscite. Avec les traces, j'allais dire, que la vie a laissées sur moi. Je suis comme vous. Ces traces-là, je les ai emmenées avec moi. C'est les traces de l'irréparable, donc c'est de l'irréparé. Mais il est sublimé, il ressuscite. Donc je ressuscite, je rentre dans la vie pleine avec l'irréparé. Dans le genre espérance, c'est pas mal quand même.
Isabelle Le Bourgeois, le Christ ressuscité nous ouvre la voie, nous aussi, vers cette vie pleine, avec nos propres blessures qui ne sont pas réparées, qui sont là, qui sont visibles, ces traces que la vie nous a laissées.
Absolument. Et là, quel que soit l'état de notre irréparé, je veux dire, on va rentrer avec lui. Je crois profondément à ça. Alors après, les autres vont me dire, ouais, mais quand même, il y en a, c'est pas possible, ils peuvent pas rentrer au paradis. Bon, qu'ils le disent, c'est très bien. Moi, j'en sais rien de ce que Dieu va faire, hein, tout compte fait. Bon. Mais quand même, ma foi, elle est que c'est le plus grand nombre qui va rentrer là, sauf ceux peut-être qui voudront pas y aller. Bon. Mais pour tous les autres, je vois pas bien pourquoi il y aurait l'obstacle. Voilà. On est tous faits d'une pâte, j'allais dire, terriblement complexe, où les ombres, chez certains, sont infiniment plus violentes que chez d'autres, c'est vrai. Bon. Et c'est ce que je dis aussi dans une première partie, hein, quand je parle des bourreaux et des victimes, et j'emploie bien le mot bourreau exprès. Comment regarder le bourreau avec un œil, j'allais dire, d'espérance, enfin, un regard d'espérance? Comment le regarder comme étant capable lui aussi de peut-être de sortir de que l'irréparé en lui s'ouvre à la vie, voilà.
Déceler un peu de lumière en lui aussi, quoi.
Oui, mais oui. Et comment espérer que ça soit possible? Je peux pas, si je suis croyante et si je fais le métier que je fais, laisser de côté ce dont je me dirais, bon, non, c'est trop énorme quand même. Attends, lui, il a tué père et mère, il a violé des enfants. Non, là, c'est pas possible, je m'en occupe pas, il n'a pas droit à l'espérance. Si. C'est terrible, hein. C'est terrible, ça, parce que c'est un combat, je peux vous le dire. Quand vous vous occupez beaucoup aussi d'écouter les victimes, vous avez les deux en écartèlement, si j'ose dire, hein, et en visée en même temps, vous vous dites, et tous les deux sont des êtres humains. Et comme dit Matthieu, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ah ouais. Ah, et qu'est-ce que tu fais si tu aimes tes amis et si... Ah ouais, d'accord, bon. Je prends ça au sérieux, je prends pas ça au sérieux. Et l'espérance, elle est faite pour qui? Alors après, on va me dire, mais oui, mais il y a une exigence quand même. Dans l'évangile, Jésus dit, maudit sois-tu si ceci, si cela. Bon. On va pas se lancer là-dedans, c'est trop compliqué. Et ça demanderait tout un... des heures et des heures là-dessus. Bon. Mais ça ne vient pas contrecarrer ce que je suis en train de dire. L'exigence de l'évangile, c'est une exigence de vie. C'est une exigence, attends, ta foi t'a sauvé. Mais prends conscience que t'as une foi. Prends conscience que t'es capable, avec ce que tu as en toi, d'aller plus loin que ce que tu crois.
Et la foi, c'est la confiance.
Alors, oui, la foi, c'est la confiance. C'est-à-dire la foi avec. C'est-à-dire la foi avec, pour moi. C'est pas simplement, j'ai confiance en toi. C'est j'ai foi avec toi. Et toi, ta foi avec moi en même temps.
Alors attendez, quelle est
la confiance, c'est réciproque. Sinon, c'est pas de la confiance. C'est-à-dire, moi, j'ai confiance avec Dieu parce que Dieu a confiance avec moi. J'ai pas simplement confiance en Dieu. Et puis hop, basta. Est-ce qu'il a confiance en moi? J'en sais rien, je m'en fous, moi j'ai confiance en lui. Non. Moi, je m'en fous pas du tout. La confiance, c'est réciproque.
Ça veut dire aussi qu'on a une responsabilité, nous.
Absolument.
Et quand on dit Dieu te guérit ou Dieu te sauve, il te sauve pas malgré toi.
Absolument. Et moi, je pense que l'expérience d'être mère de famille, que je n'ai pas, permet de comprendre ça sur moi. C'est-à-dire la confiance d'un enfant vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de sa mère. C'est une confiance, j'allais dire, indéfectible au démarrage. Et puis, il va y avoir des trahisons. Et la confiance, elle s'effrite. Il va falloir la reconstruire. Bon. Et c'est une confiance qui se tricote ensemble, dans la parole échangée. Oui, d'accord, je t'avais promis, je l'ai pas fait. Oui, mais je peux plus te croire. Oui, je comprends. Si j'en parle plus, et si je dis, bon, écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les grandes personnes, c'est comme ça que ça fait, et toi, tu te tais. C'est fini. Il n'y a pas de dialogue. La confiance, c'est quelque chose qui se construit en permanence. Elle n'est pas infaillible, jamais. Ça n'existe pas. Elle est vulnérable, la confiance. Mais justement, elle se parle, elle se dit.
On peut la restaurer, la réparer, la confiance.
Absolument. Mais elle ne se restaure que dans la parole. Voilà. Que dans cette capacité. Et avec les petits, c'est extraordinaire de voir ça. Comment ça se met en route ou pas. Comment ça se garde au fil des années ou pas. Parce qu'il y a des trahisons, de toute façon. entre époux, il y a des trahisons. Je parle même pas de l'adultère, des trucs comme ça. Mais des petites trahisons. Tu m'avais promis, tu m'avais dit, je croyais que. Et puis c'est pas ça. Ah oui, oui, oui. Et cet écart-là qu'on voit tout d'un coup se profiler dans nos humanités, il est insoutenable. J'ai plus confiance en toi. Attendez, attendez, attendez. On est où? Personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. Et confondre infaillibilité et confiance, alors ça c'est très grave. À ce moment-là, on n'a plus confiance en personne. Voilà. La confiance, c'est vulnérable. Dans la confiance, il y a de l'irréparé. Et ça se tricote, ça aussi. Voilà. Et ça va vers l'espérance si on en parle.
Un très grand merci Isabelle Le Bourgeois de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce très beau livre, Vivre avec l'irréparé. Ça paraît chez Albin Michel. Je rappelle également que vous êtes religieuse auxiliatrice et psychanalyste. Encore un très grand merci. Et merci à Pierre-Henri Paget qui a assuré la technique et la réalisation de cette émission.
Merci à vous.